je voudrais commencer en souhaitant un bon début de fête de Hanouka à ceux parmi vous que ça concerne. Deuxième annonce avant de commencer, samedi matin à l'émission d'Alain Finkielkraut, il va y avoir donc une bonne partie de l'émission consacrée à un des livres de Marc Répond que j'ai commenté dans le cadre de ce séminaire, qui est donc « Altérité de l'Europe ». Je vais citer les paroles de Marc Répond à propos donc, de cette séance chez Finkielkraut samedi matin. Ça sera donc un tir groupé de la droite française par rapport à mon livre. Je vous dis ça, histoire de vous inciter à écouter cette émission. En ce qui concerne mon intervention, je vais une nouvelle fois commencer comme la semaine dernière, en guise d'introduction. Je vais faire un petit montage de questions et de motifs formant une constellation en vue de laquelle et depuis laquelle mon travail peut prendre son sens. Premier élément de cette constellation, on va appeler ça mon attente. Je suis un homme qui attend. Exemple, j'attends la sortie des chapitres sur Foucault du nouveau livre de Bernard qui doit paraître au mois de janvier. Quelques mois plus tard, sortira enfin un livre de notre ami Sam Weber sur Walter Benjamin intitulé Benjamin's Abilities, ce serait les capacités de Benjamin, apparaître aux presses de l'Université de Fordham. J'attends ce livre depuis au moins 1990, quand il fut annoncé lors d'une exposition importante aux États-Unis consacrée aux révolutions romantiques, critiques et théories. Et enfin, j'attends la sortie imminente, il y a déjà 3 mois de retard, d'une traduction française due à Florence Nevoltry, du grand livre de Frederick Jameson intitulé « Le postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif ». C'est sorti. Voilà. Dites-moi ce que vous attendez et je vous dirai qui vous êtes. Bref commentaire, toujours dans ce premier élément de ma configuration. Cette attente-là est un peu trop circonstanciée, non? Je pense être un homme de l'attente. Mais si cette prédication se réduisait à la sortie prévue de quelques livres, ce ne serait pas très intéressant. Il faudrait s'y reprendre en disant, par exemple, « J'ai peur d'être déçu par le livre de Samuel Weber. J'ai peur d'être déçu également par l'approche de mon ami Bernard, de son ennemi Foucault. Et enfin, je suis un peu gêné d'avoir placé tant d'espérance et tant d'heures d'enseignement dans le livre de Jameson, qui me paraît en ce mois de décembre 2007 plus vieilli que beaucoup d'autres livres sortis en 1991. Une attente est une forme d'anticipation, de protension, et je prends date ce soir en m'engageant à rendre compte du nouveau livre de Bernard par écrit, puisque son sujet se trouve au carrefour de mes forces et de mes faiblesses, de mes centres d'intérêt et de mes lacunes, et cela mérite un travail et une réponse dont on trouvera ici, ce soir, les premiers mouvements. Ce que je gagne à cette reprise des qualifications de la prédication, il est un homme de l'attente, je suis un homme de l'attente, c'est une image un peu plus claire de ce que j'ingurgite et de ce que je rends sous forme d'abord de réaction, puis sous celle de critique. On a beaucoup progressé depuis les consignes de Nietzsche, en ce qui concerne les régimes de nourriture physique et spirituelle et leur présentation. On sait maintenant, peut-être beaucoup mieux qu'au XIXe siècle, que l'on peut et que l'on doit manger des souvenirs, et que lire aussi est une prise de substances étrangères au corps qui peut et doit déboucher sur des processus rapides et lents de métabolisation, d'élimination et de rétention. Je quitte ici provisoirement ce petit bout d'une organologie générale qui parle pas trop métaphoriquement à mon sens de mes organes d'incorporation et d'excorporation d'aliments et d'impressions pour viser plus haut. Il me semble que dans les langues de culture européenne, nous avons maintenant largement digéré la vague ou le vent de la postmodernité. Ça, je ne suis pas sûr de ça, mais je le dirai, je poserai ça comme hypothèse que la postmodernité serait derrière nous et que ça expliquerait cette impression que j'ai que le livre de Jameson est déjà vieilli avant l'heure. En France et chez les esprits de tout premier ordre, cette digestion ne se présenterait même pas comme tâche, étant donné le peu d'intérêt que certains esprits, certains grands esprits, ont montré pour cette histoire de postmodernité. Il y a en revanche beaucoup de bruit signalant des perturbations dans le système digestif quand ces théoriciens, Foucault, Derrida, Guattari, beaucoup de perturbations dans le système digestif quand ces théoriciens furent mobilisés dans une réflexion tentant une coupe d'essence de la French Theory en utilisant le postmoderne comme principe de connexion. Il n'y a pas d'autre moyen pour comprendre pourquoi Foucault aurait consacré trois textes à partir de 1978, trois textes à Kant et aux Lumières. Ce sont des textes qui disent à Habermas en Allemagne, à Richard Rorty et Stanley Cavell aux États-Unis, je cite un texte fictif, une réaction fictive de Michel Foucault, « Je ne suis pas plus un postmoderne que Nietzsche ou Rimbaud. Ma devise, c'est qu'il faut être absolument moderne. Et je le suis. Ce qui m'intéresse d'un bout à l'autre de mon parcours, c'est la modernité, le moderne et la modernisation. À la limite, je ne comprends pas de quoi il retourne avec votre postmoderne. » On a pu réquisitionner Walter Benjamin dans le même but. On a pu inventer un Benjamin postmoderne, qui serait donc une sorte de corps en mouvement, tranquille, entre des pôles et des positions, qui, pendant le moment moderne, était considéré comme contradictoire pour un moderne, mais maintenant, simplement disponible comme des produits ou des vêtements pour l'œil aiguisé d'un flâneur culturel et politique. Le cas de Bernard Stiegler est éclairant dans cette affaire. Il y a chez lui, me semble-t-il, un mouvement, d'abord de rejet de la postmodernité, qui par la suite, sans doute dû à ses prises de fonction dans les établissements traversés de courants postmodernes, s'est modifié sans, à mon avis, changer d'avis sur le fond. C'est-à-dire le postmoderne, ce n'est finalement pas très intéressant. Deux mois ici de Denis Guénoun et de son attente. Nous allons le recevoir donc dans le cadre des séances à la colline de l'association Ars Industrialiste. Il va venir discuter avec nous le samedi 15 décembre. Cet homme attend beaucoup d'une approche historienne de ce qui, d'après lui, reste énigmatique. Il dit « obscurci au XXe siècle ». Il s'inscrit dans cette attente à nos côtés, aux côtés de ceux qui attendent d'utiliser ou de pratiquer les nouvelles armes qu'ils auront trouvées. Je cite Denis Guénoun dans un email qu'il nous a envoyé à beaucoup d'entre nous. Une entrée sensée ou juste dans le XXIe siècle est conditionnée par la compréhension de ce qui s'est passé au XXe. Que s'est-il passé pendant la Révolution russe, puis en Chine, et quel est le sens de l'échec de la Révolution en Europe et son remplacement par le national-socialisme. Une gigantesque expérimentation sociale a eu lieu au XXe siècle. Qu'est-ce qui a échoué et de quoi sommes-nous les héritiers? L'histoire du XXe siècle, l'histoire qui reste donc d'après Guénoun, d'après son attente, d'après ses attendus, cette histoire reste à écrire. Une histoire en attente donc, pour servir d'arme pour l'abordage du XXIe siècle. Ce qui m'intéresse dans cet appel, qui n'est pas encore un manifeste, bien que j'attends à ce qu'il le devienne, c'est la manière dont il peut être lu comme une reprise des cours de Foucault, qui, lui, a conclu à leur échec, et les a donc abandonnés pour se diriger vers d'autres siècles, grecs et romains, sans qu'il soit du tout évident que ces mouvements ne devraient pas s'inscrire dans une immense boucle historique et historien, se terminant précisément autour de ce que Guénoun décrit comme encore obscur au XXe siècle. Je voudrais ici interrompre donc ma présentation pour parler de trois temps. Hein, le temps de guerre, le temps de trêve et le temps de paix. Je me souviens de la provocation de Fukuyama annonçant il y a déjà longtemps, à peu près au moment là où Frederick Jameson a sorti en anglais son livre sur le postmoderne. Fukuyama, postmoderne en diable donc, a annoncé la fin de l'histoire. Et je me souviens de la réaction de Derrida disant « Tiens, tiens, ça me rappelle quelque chose. Ce n'est pas la première fois, disait-il, qu'on nous fait ce coup-là. Kojève déjà l'avait déjà fait dans les années d'après-guerre, et bien entendu Hegel surtout est célèbre pour l'avoir pensé avant tout le monde. » La réponse de Derrida réplique à Fukuyama. Moins chez Derrida que chez d'autres, que je ne nommerai pas, la réponse consiste à dire que tant qu'il y aura des guerres, on ne pourra parler de fin de l'histoire. Ça, je pense qu'on trouve en filigrane dans le bouquin de Derrida, Spectre de Marx, cette réponse. On la trouve chez d'autres qui sont moins précautionneux, moins prudents que Derrida. Une thèse très claire qui consiste à dire non, il n'y a pas une fin de l'histoire parce qu'il y a encore des guerres qui font rage partout. Nous vivons un temps de guerre. C'est une temporalité spécifique qui vaut quelques détours. De 1798 à 1802, puis de nouveau de 1803 à 1814, puis encore en 1815, l'Angleterre connaît un temps de guerre avec la France. C'est un temps où des réactionnaires fleurissent et marquent leur temps lorsqu'ils sont géniaux. C'est le cas de Edmund Burke dans ses réflexions sur la Révolution française. Cette guerre a consolidé le peuple anglais grâce à la peur, à l'espérance et à la mémoire. Elle est devenue, la guerre est devenue, la condition naturelle de l'homme anglais quelconque. Un changement raconté tous les jours dans les gazettes, au point de devenir un changement naturel. Une trêve a eu lieu en 1802 dans le soi-disant traité d'Amiens. Puis de nouveau, ce fut la guerre, jusqu'à l'abdication de Bonaparte en 1814. De nouveau, les 100 jours de guerre dès son retour en activité, puis Waterloo et l'incarcération de Bonaparte en 1815, date à laquelle commence la toute première fin de l'histoire moderne. Pendant un temps de guerre, il est un devoir pour le peuple de se mobiliser en tant que spectateur, nation et classe sociale, ces trois mots au pluriel, bien entendu. Les Lumières écossaises perdaient beaucoup de leur prestige pendant ce temps de guerre, à force de tenir au récit de l'évolution lente du tissu social à travers les siècles. Les gens avaient dans la tête et dans les tripes le fait qu'une société pouvait donc se désagréger et son peuple s'atomiser, être prêt à s'agréger dans n'importe quelle formation pourvu qu'elle apporte un peu de confort, de réassurance et de barrière. La tâche d'Edmund Burke fut de théoriser le théâtre comme arme dans la tâche de domestication de ces mouvements tous azimuts. Comme le cinéma 100 ans plus tard, ce fut une réussite. Mais le prix fut important. Une transformation de la théâtralité elle-même, transformation à propos de laquelle Denis Guénoun et Samuel Weber peuvent nous décrire les péripéties. Ça va des spectacles son et lumière devant Lutherberg et les spectacles déjà très Nuremberg de l'anglais Pitt. Le temps de guerre, paradoxalement, n'existe pas pour le soldat. Il est temporalisé uniquement pour ceux qui restent derrière les lignes ou bien derrière les écrans. Le temps de guerre est un phénomène moderne. Il est spectacle et il est nouvelle première page. C'est ça qui constitue la modernité de la guerre. C'est toujours en quelque sorte une guerre froide, conduite avec des représentations stratégiques d'un conflit lointain et menée chez soi de la part de quelques citoyens contre d'autres citoyens. Le temps de guerre est une séquence narrative d'événements marqués par un début ponctuel, déclaré et fortement limité, bien que d'une durée illimitée, ou disons indéterminée. Je dis séquence narrative pour capter la nature des événements produits pour le public domestique. Il faut que le spectateur,
ou l'auditeur
entre dans cette séquence. La première chose qui saute pendant le temps de guerre, c'est la partition séparant la vie privée de la vie publique. C'est une des rares formes de la temporalisation du temps qui ne pose aucun problème aux spectateurs participants si on les raconte que l'individuation psychique est toujours indissociablement une individuation collective. Le temps de guerre imprime cela comme une évidence aux consciences impliquées. Dana Pullen, dans son Pouvoir et paranoïa, histoire narrative et le cinéma américain 1940 à 1950, écrit que le temps de guerre n'offre que des perspectives incomplètes et gauchies, où la mémoire ou la rétrospection ne peut forcément que tomber à côté du déroulement des événements. Dans le temps de guerre, il n'y a aucune position de Sirius, aucune objectivité possible. Ce temps ruine l'aspiration de tout un chacun d'échapper à son temps et la prétention de l'historien matérialiste de pouvoir l'expliquer. Bien entendu, il ne faut pas pour autant conclure à une absence de tentative dans ces deux directions. Le temps de trêve, maintenant, officialise la suspension du temps de guerre et formalise toutes les questions de transition comme une forme spécifique de temporalisation du temps. C'est véritablement le passage à une nouvelle forme de temps, mais sans garantie que la suite sera une instauration de paix ou la reconduction du temps de guerre. C'est l'apparition d'une forme nouvelle de temps qui ne répond pas aux attentes des gens. Elle n'est fondée par rien, sinon des conventions diplomatiques, qui se trouvent donc propices à toutes les formes de la persuasion rhétorique et politicienne. On parle, pendant les temps de trêve, de seuil, de moments de repos, de vacances, d'échanges de cadeaux de la nuit de Noël, comme dans le fameux film. Très mauvais à mon sens, mais je passe. Le temps de paix, finalement, est donc une forme primitive de la fin de l'histoire. Un temps de démobilisation, quand les groupes et les mouvements commencent à se mesurer les uns par rapport aux autres, en projetant des rapports de force et des projets politiques pour le renouveau et la reconstitution du tissu social. Les foules retrouvent le goût de la flânerie et les soldats cherchent à sortir de leur minorité bouche bée. Mais le temps de paix n'a jamais donné naissance à un avenir propre à sa temporalisation. Il ne peut que médicaliser le passé comme un temps malade, dans la pensée et dans l'action. C'est un temps de convalescence, sans anticipation et sans protension, sans le retour à la santé d'ailleurs non plus. Je vous raconte tout ceci parce que je suis d'accord avec Denis Guénoun qu'il faut périodiser et recaractériser l'histoire du XXe siècle en Europe. Bien entendu, les 30 glorieuses dans ce pays, le vôtre comme le mien, en France, sont habituellement considérées comme un temps de paix. Je pense que plus ça va, plus cette période ressemblera à une mini-trêve dans une guerre prolongée qui est le XXe siècle. Sur l'aile gauche de la pensée historienne, je ne vois pas grand monde à partager cette perspective périodisation-là. Sauf peut-être Frederick Jameson et chez les Français Alain Badiou. À l'aile droite, en revanche, il y a foule. À commencer par le terrible livre de Ernst Nolte intitulé « La guerre civile européenne 1917-1945 ». Il faudrait passer beaucoup de temps à discriminer les temps de guerre. Le clash des civilisations n'est pas une bonne discrimination. C'est un symptôme d'une pénurie de pensée. La guerre contre le terrorisme n'est pas une bonne discrimination non plus. C'est une idéologie. C'est un tour de passe-passe. Les guerres contre la pauvreté, contre la drogue, contre l'exclusion, c'est le ronron de la bien-pensance. Nous avons ici, me semble-t-il, dans ce séminaire, une pensée ferme mais incroative quant à une discrimination toute neuve de la guerre dans laquelle nous sommes. Mais parce que je dois aller vite vers ma conclusion ce soir, je me permettrai cette pirouette. Cela fait bientôt 3 ans que nous vous en parlons. Deuxième élément de ma configuration, la pharmacie de Foucault. Il est vrai que Foucault ne parle que très peu de pharmacie. et jamais explicitement du pharmacone. Sauf quand il distingue dans les entretiens entre des bonnes et des mauvaises drogues. Mais les endroits où il en parle sont par ailleurs si importants pour la juste saisie du sens de son parcours que ce presque mutisme peut être jugé comme une vertu lacédéminienne, c'est-à-dire une vertu de brièveté. La première occurrence est dans un entretien de 1967, un entretien qui s'appelle « Qui êtes-vous, Monsieur Foucault ?» repris d'un dixième écrit, premier tome, à la page 632. Ensuite, il y a le grand article de Deleuze, sur Deleuze, qui peut être lu maintenant comme un document permettant peut-être la périodisation de ce moment générationnel, dans ses attendus, dans ses attentes, et dans le sens d'une folle modernité qui joue ici, peut-être, ses dernières cartouches. Je ne suis pas disposé à poursuivre ce soir, mais on pourrait très bien lire donc ce texte où Foucault annonce que le siècle sera deleuzien. On peut très bien lire ça avec peut-être un regard passablement analytique pour conclure que Derrida, Foucault, Deleuze, Guattari, ce sont rétrospectivement, 40 ans plus tard, des adolescents qui n'auraient pas su assumer leurs responsabilités. Je ne suis absolument pas disposé à assumer cette analyse-là devant vous ce soir. J'en ai une autre à faire avant. Mais à mon avis, on va entendre ça souvent. En tout cas, ce soir dans mon exposé, on va retrouver cette thématique-là. Quelques mots de Foucault, parlant de Deleuze quand même. Je ne résiste pas à reciter ces quelques mots. On voit aisément comment le LSD inverse les rapports de la mauvaise humeur, de la bêtise et de la pensée. Et j'ajouterai de la fatigue également. Il n'a pas plutôt mis hors circuit la suzeraineté des catégories qu'il arrache le fond à son indifférence et réduit à rien la morne mimique de la bêtise. Et toute cette masse univoque et acatégorique, il la donne non seulement à voir comme bariolée, mobile, asymétrique, décentrée, spiraloïde, résonante, mais il la fait fourmiller à chaque instant d'événements. L'opium induit d'autres effets. Grâce à lui, la pensée ramasse en sa pointe l'unique différence, rejetant le fond au plus loin et ôtant à l'immobilité la tâche de contempler et d'appeler à soi, en la mimant, la bêtise. L'opium assure une immobilité sans point, une stupeur de papillon hors de la rigidité catatonique. Et très loin au-dessous d'elle, il dépolit le fond, un fond qui n'absorbe plus bêtement toutes les différences, mais les laisse surgir et scintiller, comme autant d'événements infimes, distancés, souriants et éternels. À la fin de ce passage, qui se termine avec le vocable « peut-être ». Donc à la fin de ce passage, à cet instant, à l'endroit de ce dangereux « peut-être », Deleuze se permet d'introduire une note en bas de page. Moi, je pense qu'il feint d'avoir été alarmé au point d'ajouter donc cette note au papier de son ami. Il se demande dans la note « qu'est-ce qu'on va penser de nous ?» Fin de citation. Ce texte s'appelle « Theatrum Philosophicum », paru d'abord d'un critique en novembre 1970 et repris d'un dixième écrit, tome 1, à la page 963. Ce que je retiens de tout ce qu'il y aurait à dire, c'est d'abord le « nous » de l'amitié de Deleuze-Foucault. Et ce qu'il avait lu et regardé jusque-là, les travaux d'Henri Michaux, Antonin Artaud, Raymond Roussel, mais aussi ceux de Nietzsche, de Maurice Blanchot et de Georges Bataille, qui tous, dans la façon dont Foucault allait les métaboliser, a, comment dire, creusé le lit virtuel d'où sont surgies ces phrases qui annoncent, comme un manifeste, que le siècle sera un jour le siècle de Deleuze, et qui annonce une expérience plus directe du LSD 5 ans plus tard, dans la vallée de la mort, accompagnée de 2 amis californiens, et de la musique de Karlheinz Stockhausen dans les oreilles, sur le promontoire de Zabriskie Point. Je n'ai pas résisté à l'envie de raconter cette scène si hollywoodienne. D'abord parce que Foucault n'a jamais fait état de cette expérience dans ses écrits, que les sources sont toutes secondaires. Et pour le dire vite mais bien, le plus souvent de piètre qualité littéraire et morale. Mais une chose mérite d'être retenue ici. Je cite dans la biographie de James Miller ces quelques phrases qui doivent suffire à ce propos. James Miller dit donc, « La pensée de Foucault allait prendre un virage spectaculaire et faire subir de surprenantes et paradoxales transformations aux efforts qu'il poursuivit pour faire la lumière sur ce que Nietzsche avait appelé l'énigme que l'homme doit résoudre. Quelle est cette énigme? Comment suis-je devenu ce que je suis? Et pourquoi faut-il que je souffre d'être ainsi? » Fin de citation. Et puis cette phrase rapportée par l'un de ses amis américains lors de l'expérience de prise de cette drogue dans la vallée de la mort. « Le ciel a explosé et une pluie d'étoiles tombe sur moi. Je sais que ce n'est pas vrai, mais c'est la vérité. » Donc on dispose, donc ceux d'entre nous qui sont introduits dans cette affaire, j'en fais partie, nous disposons donc d'une sorte de manuscrit qui circule avec une espèce d'odeur de soufre qui s'appelle Foucault en Californie. Ce n'est pas très intéressant, je le mettrai volontiers en ligne, mais franchement ce n'est pas très intéressant. Mais on trouve donc cette citation de Foucault qui, pendant l'expérience, dit « Le ciel a explosé et une pluie d'étoiles tombe sur moi ». Le lecteur français reconnaîtra rapidement, dans cette dernière phrase, la présence de René Char, qui, dans le marteau sans maître, part de l'explosion des étoiles du ciel et du miracle que chaque morceau qui tombe sur lui se trouve être un morceau vivant. Je viendrai tout à l'heure à ces explosions poétiques, philosophiques et politiques, une fois terminée la délimitation de ma constellation. Troisième élément, c'est le courage de penser par lui, par soi-même. D'oser penser pour son propre compte. Quel est le courage qu'il faut ici? Qui peut toujours et souvent effectivement, ça peut venir à manquer. Foucault l'appelle le courage de la vérité. Dit comme cela, cela paraît obscur ou banal, ça casse pas les briques, le courage de la vérité. Je vous rappelle des titres des deux derniers séminaires de Foucault, pas encore publiés, mais consultables au Centre Foucault, « Le gouvernement de soi et des autres », et puis le tout dernier, en 1983-84, « Le gouvernement de soi et des autres, le courage de la vérité ». En les écoutant, on peut peut-être ressentir une certaine déception, encore un cas d'attente déçue. Je vous invite à en faire l'expérience d'ici le prochain semestre, dans le sillage de la publication du livre de Bernard sur Foucault, et la question de l'attention. Mais ici, ce soir, restons un peu naïvement peut-être, avec cette notion de courage. Je vous rappelle que c'est toujours chez Foucault, et pour nous, depuis les Lumières, le grand motif. Je cite Foucault, « L'idéal de l'Aufklärung doit être considéré à la fois comme un processus dont les hommes font partie collectivement et comme un acte de courage à effectuer personnellement. Les hommes sont à la fois éléments et agents du même processus. Ils peuvent en être les acteurs dans la mesure où ils en font partie. Il se produit dans la mesure où les hommes décident d'en être les acteurs volontaires. » Fin de citation. Je remarque en passant que le courage chez Foucault est assigné assez clairement du côté individuel, comme si un courage collectif n'était pas envisageable. Il faudrait relire la phrase parce que c'est une interprétation difficile à tenir vu la syntaxe de la phrase. Mais ne soyons pas trop philologues. Le courage, donc, c'est une certaine façon de négocier entre ses lacunes et ses forces. Peut-être avec sa faiblesse et sa force. Avoir le courage de travailler depuis ses positions fortes, personne ne dirait que cela requiert du courage. Une manifestation de force n'a pas besoin de courage. Mais travailler depuis ses lacunes, travailler dans ce qui n'est pas aisé, travailler là où on est maladroit ou gauche, à la limite de ce que l'on peut supporter, imaginer, contracter, comme on dit contracter une habitude, voilà qui requiert du courage. Penser par soi-même, pour soi-même, c'est un travail sur les points faibles, C'est un travail, c'est ce qui fait de nous des êtres gauches. C'est ce qu'on n'est pas quand on est fort. C'est ce qui n'émerge que dans la fatigue ou la maladie, et parfois dans le rêve. Je crois que Foucault a beaucoup à nous apprendre sur ce courage-là. J'ai trouvé une image, pour moi, une image magnifique, et je vais vraiment, je pourrais presque intituler mon intervention ce soir, une étude à quatre mains. La main gauche, la main droite, la main mécanique, la main... la main cachée d'Adam Smith. C'est une étude à quatre mains, mon étude ce soir. J'ai trouvé donc une image pour capter la portée corporelle, à la fois esthétique et éthique, avec une dimension cognitive à la clé, c'est-à-dire à la sortie. Il s'agit d'une image proposée par Walter Benjamin à sa correspondante préférée, Greta Karplos, qui allait devenir par la suite l'épouse d'Adorno. Ainsi, je reviens ici à une de mes anciennes convictions. C'est que parmi les hypomnémata, parmi tous les livres de contes et journaux de bord, etc., il y a ce qui rend possible et supporte le rapport épistolaire comme organon du progrès spirituel. Greta Karplos vient d'écrire à son ami que ses amis, nous sommes en 1935, ne reconnaissent plus la main de Walter dans ses derniers écrits. Elle dit, Walter, on a peur pour toi, on ne te reconnaît plus dans ce que tu fais. Est-ce que l'influence de Bertolt Brecht, est-ce que c'est parce que tu vas mal? Comment ça se fait que le grand Walter auquel on a l'habitude n'existe plus dans ces écrits-là? Comme s'il était devenu un autre. La réponse de Benjamin est d'une rare violence chez cet homme d'une si exquise politesse. Je cite la réponse de Benjamin. Quand tu écris de mon second projet sur Baudelaire, qu'on ne soupçonnerait jamais qu'il est de la main de W.B., je trouve que tu vas un peu vite en besogne et que tu franchis non pas les limites de mon amitié, mais celles de mon approbation. Je ne veux pas trop m'avancer, mais le fait est que W.B. possède deux mains. Ce n'est pas évident pour un écrivain, mais il y voit son devoir ainsi que son droit le plus légitime. Quand j'avais 14 ans, je me suis mis dans la tête qu'il fallait que j'apprenne à écrire de la main gauche. Je me vois encore aujourd'hui assis à mon pupitre en m'exerçant des heures et des heures. Aujourd'hui, chère Greta, mon pupitre, c'est à la Bibliothèque nationale. Et j'y ai repris pour le moment l'apprentissage de ce type d'écriture, mais à un niveau plus élevé. C'est la lettre du 1er septembre 1935 à Greta Adorno, dans la correspondance entre Greta Adorno et Walter Benjamin, parue il y a 6 mois aux éditions Le Promeneur. Le courage politique, intellectuel, spirituel des Lumières, c'est de s'entraîner à écrire avec l'autre main. Pour Benjamin, avec la main gauche. Il faut savoir écrire gauchement, ou gauchi. La signature, la trace du caractère, cette familiarité qui rend les amis reconnaissables dans un rien de temps, s'en trouve affectée. Et les correspondants réagissent. On ne te reconnaît plus. Cela est arrivé à Benjamin, c'est arrivé à Foucault, et je crois que c'est arrivé à Bernard Stiegler également. Ce sont donc des histoires droite-gauche, des histoires non pas dépassées par la révolution numérique, mais intensifiées par elle. Et pour en parler, il faut savoir périodiser, comme le fait exemplairement Frederick Jameson, comme le fait un peu machinalement Foucault tout au long de sa première période, avant de sentir la nécessité de changer de main. J'ai plaisir à imaginer que la prémonition ou le mouvement de l'âme qui vous dicte, vous intime d'aller plus loin dans la recherche de sa propre voie, qu'il est grand temps donc de changer de main, j'ai plaisir à imaginer que cela a dû se passer dans la vallée de la mort, sur la Zabriskie Point. Je dois ici, en toute probité, appliquer ces remarques sur le passage à la main gauche, en vous rappelant qu'il arrivera beaucoup trop tôt pour notre confort à tous, la nécessité d'écrire avec une troisième main, comme nous l'avons vu annoncé par l'artiste australien Stelarc. Il faut que j'applique ces histoires de courage à mon propre cas. C'est un peu difficile ici, mais on peut l'indiquer à grands traits. je me prépare à parler avec quelqu'un qui attache une grande importance à la philosophie de l'éducation. Je dis cela en remarquant combien son livre est constellé de renvois à ses amis, qui sont eux, presque tous, des philosophes de l'éducation. Et qui donc a, comme Bernard, mais je voudrais pour l'instant garder l'idiome et la réflexion de ces deux individus séparés, avant de conclure à une quelconque alliance, de sérieuses préventions contre Gilles Deleuze, Pierre Bourdieu et Michel Foucault. La thèse, qui est totalement paniquante pour moi, c'est que ces auteurs, maintenant que l'on peut voir plus clair dans une configuration qui ne l'était pas du temps de leur gloire aveuglante, c'est qu'ils ont dynamité les fondations de l'école, et ce, de manière parfaitement programmée et intentionnelle. Me demander de lire ce livre plus avant, c'est me demander d'apprendre à shooter un ballon de basket avec la main gauche. Mais tout bon joueur de basket sait le faire. Jouer en équipe le requiert. Alors, j'y vais. Arnaud et Bernard savent déjà que je me réfère ici au très récent livre de Danny Robert Dufour, intitulé « Le divin marché, la révolution culturelle libérale », paru donc il y a quelques mois seulement aux éditions de Noël. Je vous lis donc le passage suivant. Je cite donc Danny Robert Dufour. L'énonciation de chacune de ces pensées, de Foucault, de Bourdieu et de Deleuze, procède sûrement de considérations particulières à chacun de ces trois auteurs, mais leur réception simultanée a, à coup sûr, composé un tout qui dépassait la somme des parties. Ça, c'est un geste extrêmement important. Est-ce qu'on peut faire ça? Je pense que faire ça, c'est écrire et penser avec la main gauche. C'est difficile, on n'a pas l'habitude de faire ça, surtout avec des gens qu'on aime à ce point. Je parle pour moi, je pense que je parle pour beaucoup de gens ici. Deleuze, Foucault, Bourdieu, ce sont des références. Mais ça fait 40 ans. Et on peut imaginer que la donne, à l'époque, nous apparaisse sous une lumière nouvelle. En tout cas, c'est la thèse de Danny Robert Dufour. C'est cet effet holistique qui nous intéresse. Je suis toujours dans la citation de Danny Robert Dufour. Ce n'est donc ni Foucault, ni Deleuze, ni Bourdieu qui nous retiendront ici, c'est l'effet Foucault, puis Deleuze, puis Bourdieu. Car ces trois champs se sont comme entretressés pour former une proposition qui allait fonder à son tour une nouvelle doxa. L'école est une prison qui m'empêche d'être moi et d'être libre. Près de 40 ans après qu'elle s'est énoncée, nous y sommes toujours. On en trouve un condensé dans ce propos de Foucault tiré de Surveiller et punir. Et la citation de Foucault, c'est « La prison ressemble aux usines, aux écoles, aux casernes, aux hôpitaux, qui tous ressemblent aux prisons. » Fin de citation, c'est à la page 229 de Surveiller et punir de Michel Foucault, paru en 1975. Donc, un petit peu avant son voyage dans la vallée de la mort. Et si toutes ces institutions se ressemblent tant, c'est qu'elles relèvent d'une même lecture du pouvoir qui s'y exerce. Il faut commencer, dit Dufour, par Foucault, puisque c'est de lui que vient ce déplacement significatif de la question du pouvoir. Il ne l'étudie pas, en effet, sous l'angle d'une interrogation sur la genèse de l'État dans son rapport au droit naturel, comme les philosophes modernes l'ont toujours fait depuis Hobbes et les Lumières. Pour analyser le pouvoir en tant que tel, Foucault commence par le dépouiller de toute justification philosophique ou politique. Le pouvoir est ainsi devenu une pure force qui agit. Pour quelle raison supérieure, se demande Dufour, nous n'avons pas à le savoir. Nous n'avons à en connaître que ces mécanismes inférieurs. Ces mécanismes inférieurs correspondent à des processus mineurs, ceux qui cernent, investissent, disciplinent et dressent les corps. Le pouvoir peut investir les corps, comme morceau d'espace, comme noyau de comportement, comme durée interne et comme somme de force. La finalité du dressage, dit-il, c'est le quadrillage des corps en vue de leur répartition dans l'espace social. Chacun doit être distribué à sa place selon son rang et sa fonction. Hein. Comme chez Platon, il dit pas ça du four, mais c'est vraiment le. On sent Platon hein, qui disait pour aller vite, one man, one job. Hein. Un homme, une place, un métier. Pas de cette explosion donc, des simulacres que Foucault a expérimenté donc, dans la vallée de la mort. Chacun doit être distribué à sa place selon son rang et sa fonction, de façon que soient simultanément atteints deux objectifs. Éviter tout désordre au sein de la société et combiner les corps afin d'en extraire une utilité maximale. Voilà le résumé de Foucault par Dufour. Il en existe dans ce chapitre d'autres pour Deleuze et pour Bourdieu. Ce qui m'intéresse, c'est ce que 40 ans plus tard, on peut apercevoir de cette parenté de thèse, de cette synonymie entre auteurs qui s'entendent tous à dresser le constat d'une société de contrôle qui pouvait se débarrasser d'anciennes techniques de disciplinarisation et de quadrillage en forgeant de nouvelles. Qu'est-ce qui apparaît 40 ans plus tard? Moi, je trouve que notre position, avant de dire oui à l'arrivée d'Annie Robert Dufour, notre position, c'est que les choses se seraient plutôt empirées ou seraient devenues plus sophistiquées. La réponse de Dufour, c'est que cette synonymie dessine le portrait d'un petit sujet qui aurait parfaitement pu tenir tout seul, mais sur lequel on s'est méchamment acharné à appliquer non seulement des lois extérieures, mais surtout toute une série d'insidieux appareils de contention destinés à assujettir son corps ainsi torturé par tous les bouts possibles. On ne trouve pas ça ni chez Deleuze, ni chez Foucault, ni chez Bourdieu. Hein? C'est une invention de l'auteur. Hein? C'est une méprise assez courante. Moi, je suis d'autant plus sensible à cette méprise qu'elle court hein, dans les analyses de Foucault, Deleuze et Bourdieu chez ceux qui voudraient faire de cette configuration-là quelque chose de postmoderne. Je maintiens qu'on n'est pas encore sorti de cette vision apocalyptique véhiculée par Foucault, qui a fait de la culture, sans exception, autrefois instrument de salut de chacun, et notamment des opprimés, un pur moyen de pouvoir, d'aliénation et d'oppression. La différence, c'est qu'hier, on disait encore ce refus de la culture de façon cultivée, voire très cultivée, entre parenthèses. Dufour dit, Foucault est le modèle du genre. Il n'est pas entré au Collège de France par hasard. Fin de parenthèse. Mais le problème est que les adolescents d'aujourd'hui signifient en acte ce refus à celui qui s'avise de les cultiver. Arrête de m'endoctriner ou je te plante. C'est exactement pourquoi le nombre de plantages d'enseignants par de jeunes collégiens est en nette augmentation. Vous trouverez donc cette argumentation aux pages 168-169 du livre de Dufour. Je me retrouve donc de nouveau à parler d'un couteau en tant qu'arme. Ce n'est pas la première fois ici que le couteau vient à moi. Je voudrais prendre ces lignes, une à une, mot par mot, pour montrer premièrement que Foucault lui-même s'est rendu compte de pièges dans lesquels sa pensée allait bientôt l'enfermer, du côté de la réception, comme dit Dufour. Pour montrer deuxièmement que le plus difficile en la matière, c'est d'aimer cette violence, c'est d'aimer ces effets de contrôle, ces effets un peu sadiques, c'est d'aimer jusqu'au libéralisme comme une chose fragile, souvent idéologique, mais toujours digne d'éloge pour celui qui a lu le manifeste communiste Karl Marx. Je suis d'accord avec Dufour quand il écrit que ces philosophies sont rien moins que les variantes de la pensée libérale. Ça, c'est très juste. Mais ces trois pensées prêtent attention au libéralisme comme une métastabilité, génératrice d'inquiétude, dont les rétentions et les protensions lui donnent une historicité, c'est-à-dire une genèse et peut-être une fin, une mémoire et une espérance, qui lui enlève ce côté étiquette plein de compromissions, si utile à l'auteur dans sa condamnation. La preuve de l'appartenance à la configuration libérale de ces trois auteurs, c'est qu'ils ont, dit l'auteur, étendu la zone d'application du laisser-faire au champ des échanges culturels entre les générations. Elles ont inventé le laisser-faire pédagogique. Il s'agit donc d'une forme d'abandon. On laisse les élèves et les étudiants à leur sort, ou plutôt, on les confie à la main invisible d'Adam Smith. L'auteur ne dit pas ce que je vais maintenant dire, ce qui fait que son livre ne me tombe pas des mains, c'est que lui, au moins, il est manifestement convaincu que nous sommes en guerre. Je ne suis pas en guerre comme lui, il pense que nous le sommes. Je suis en guerre contre moi-même, tout en temps, et peut-être en tout premier lieu, contre moi-même. Cet aspect-là manque pour l'instant dans les écrits de Danny Robert Dufour. Pour lui, les sociologues d'inspiration bourdivine ne voient pas, quand ils s'extasient devant les tags de la guerre de la gare du Nord ou sur la façade nord de la cité Picasso à Brétigny-le-Grand, ne voient pas donc, ou ne veulent pas voir, qu'une sorte de drôle de guerre a été déclenchée contre tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la culture. Il est très symptomatique, écrit-il, que les signes attestant d'une guérilla contre la culture soient parfaitement saisis et interprétés par les hommes de l'art, si l'on peut dire, attentifs comme tels à préserver leurs objets. Écoutons par exemple, dit-il, Jean Clair parler des tags. Je vous fais grâce de la citation de Jean Clair. Je laisse donc ces passages à votre discernement. La différence qu'opère une lame de couteau, non pas pour planter, mais pour distinguer, séparer et conceptualiser, c'est qu'ici, nous disons que nous sommes en guerre. Nous aussi, peut-être ici je devrais parler uniquement pour mon propre compte, moi aussi, j'ai mes tags et mes signes de reconnaissance dans une sorte de guérilla. Je parle pour le coup en mon nom propre. Je n'arrive pas à voir les taggeurs comme en face de moi. Hein, ce ne sont pas mes ennemis. Leur guerre n'est pas la mienne, mais elle la croise, et ce, multiplement. Je ne suis pas assez rapide ou courageux pour élire comme support les murs de l'entrée dans la gare du Nord, mais je me vois bien derrière une caméra pour un travail inédit sur une chaîne de télévision délocalisée, qui aurait, je l'espère, beaucoup en commun avec ces tags, et inclut une forte dose de rage et de pulsion destructrice, à même de faire un tabac dans les salles de cours, configurées en réseau avec ces tags. Avant de quitter Dufour, je voudrais indiquer mon attente à son sujet, que je vais bientôt pouvoir formuler de vive voix, je l'espère. Il s'agit d'une note où tout ce qu'il avait écrit et que j'ai lu pour vous se trouve suspendu, comme si lui aussi allait passer à une écriture de la main gauche. Page 192, comme point d'orgue à une demi-douzaine de pages que j'ai lues après mon intervention de la semaine dernière, je vous invite à les lire. Elles sont comme lavées de toute polémique qui, à d'autres endroits du livre, beaucoup trop nombreux à mon avis, lui imprime un ton ou une tonalité qu'il n'est pas nécessaire de supporter. Voici la note qui remet sur pied une relecture de Foucault, 40 ans plus tard, avec les armes d'un discours enseignable sur les armes amicales de la technique. Je cite Dufour, on note, page 192, « Il est remarquable que les techniques d'action sur soi aient particulièrement intéressé Foucault, notamment celle de l'Antiquité tardive. Non pas le premier Foucault, celui de l'effacement du sujet et de la critique radicale des institutions, mais le second, presque inverse du premier, celui du souci de soi. Il n'est pas impossible de penser que ce renversement foucauldien pourrait pour une bonne part s'expliquer par l'impasse où conduisait la démarche intérieure. » Fin de citation. Place donc à de la périodisation et à sa problématisation. Place à de la périodisation marxiste, avec les cycles de Kondratiev, qui joue un rôle critique dans l'élaboration de Jameson, et qui, à mon avis, mais nous en reparlerons, invalide sa théorisation du postmoderne comme la logique culturelle du moment où le capitalisme se débarrasse enfin des contradictions qui grevaient son progrès pendant la période moderne. place aussi à une périodisation qui procède poétiquement, comme celle de Foucault. Son souci, son seul et unique souci, dans les dernières années de sa vie, ce fut la question de l'un. Lisez ici la question de l'unité de son parcours. Faire une périodisation afin de dégager un fond qui n'est pas toujours pareil, mais qui revient au même de l'unité. Je dis poétiquement pour pointer la lecture soutenue de Foucault de la poésie de René Char, d'un bout à l'autre de son parcours. Cela commence avec l'histoire de la folie, première édition, où on pouvait lire ceci à la fin de sa préface. C'est Foucault qui cite René Char. « Compagnon pathétique qui murmurait à peine, allez, la lampe éteinte, et rendez les bijoux. Un mystère nouveau chante dans vos os. Développez votre étrangeté légitime. » Fin de citation. La phrase est plus facile à trouver dans les œuvres complètes de Char que dans la première édition de Folie et Déraison. Il s'agit d'une poésie qui s'appelle « Partage formel » et qui se retrouve dans le volume de la Pléiade à la page 160. Et puis, à l'autre bout du parcours de Foucault, on peut lire sur les deux derniers tomes de l'histoire de la sexualité, ceci du même René Char. L'histoire des hommes est la longue succession des synonymes d'un même vocable. Y contredire est un devoir. Ça, c'est tiré de L'âge cassant, le poème Âge cassant dans les œuvres complètes, page 766. Il nous importe, me semble-t-il, d'interpréter ce geste qui laisse en héritage le devoir de contredire à la synonymie. Pour chaque vocable, le travail de l'histoire et le travail de l'écrivain, c'est de dégager la succession indéfinie de synonymes dont il est affecté, comme un corps est affecté d'une maladie, et d'y dire non, comme Amy Winehouse chante en ce moment, hein, on veut m'envoyer, on veut me faire retourner donc en réhabilitation, et je dis non, non, non. On peut résumer le parcours de Foucault et les critiques qu'on a pu faire. En disant qu'il faudrait un jour commencer par accepter les synonymes. En tout cas, Foucault est très clair. S'il y a une unité à son parcours, cette unité consiste à avoir dit non chaque fois qu'on a proposé des synonymes pour le vocable qui l'intéressait, c'est-à-dire l'énigme de sa propre vie. Non à la succession des synonymes de la folie. Non à la succession des synonymes de la clinique. Puis celle des synonymes du savoir, puis à la succession des synonymes de la prison, puis à celle des synonymes de la sexualité. Je suis ici les termes d'un article de Jean-Claude Milner qui lit cette ultime logion dans tous les sens possibles. Le vocable maladie mentale n'entre pas en série avec le vocable folie. Et il n'est pas une autre manière de dire la même chose. Le vocable sexualité n'est pas le dernier et plus récent terme d'une longue série dont les premiers en Grèce auraient été aphrodisia, eros, puis en passant à l'ère chrétienne, agapé. Les termes anciens ne sont pas une autre manière de dire la même chose que les termes modernes. Ainsi, la phrase de Char fait état d'un radical nominalisme de la part de Foucault, du début à la fin de son parcours, et surtout celui qui a causé le plus de remous et le plus de choses finalement obscures, ce livre Les mots et les choses. Là, il a fallu arracher l'histoire à la figure de l'homme et faire pour que l'histoire de quelque vocable que ce soit cesse de se déverser systématiquement dans ce vaste collecteur mou qu'on appelle l'histoire des hommes. Contredire à la succession des synonymes, ce n'est pas nier qu'il y ait des synonymes, c'est plutôt nier qu'ils soient successifs. C'est-à-dire Foucault, assez paradoxalement, est quelqu'un qui va finalement dire il est difficile, sinon impossible, de périodiser. Il faut commencer avec les mots et les choses, ensuite dégager les synonymes, et le plus souvent, on va se retrouver avec des époques, mais ça sera uniquement dû à ce travail de critique qui consiste à refuser la synonymie. Une histoire digne de ce nom exigerait que la multiplicité des synonymes possibles cesse d'être soumise à la loi de la succession, pour être soumise plutôt, dans les mots et les choses, à la loi de la simultanéité. Mais, et je vais terminer là-dessus, que signifie la locution de Char, l'histoire des hommes? Il y a une façon de l'entendre qui ne peut pas être la nôtre ici, après 3 années de séminaire. L'histoire des hommes serait, pour le non-séminariste, l'histoire au sens collectif, c'est-à-dire, platement, tous les hommes pris ensemble. Il faut, je crois, l'entendre dans le passage de l'individu au collectif. Il faut l'entendre distributivement, dit Jean-Claude Milner. L'histoire des hommes, c'est l'histoire de chaque homme pris singulièrement, suivant son étrangeté légitime. Le devoir dont parle Char devient le devoir de chacun, et dans cette mesure, il est le devoir de tous. Chacun doit considérer sa vie comme une histoire. Chacun doit considérer cette histoire comme une succession de synonymes, et chacun peut, sinon doit, contredire à cette synonymie. Je ne suis pas le même qu'il y a 10 ans, 10 mois, 10 jours ou 10 secondes. Beaucoup de choses sont entraînées dans ce maelstrom, y inclus ce qui peut-être constitue la faiblesse majeure de la carrière d'auteur Foucault, le refus des synonymes, qui peut éclairer les rapports plus qu'ambivalents entre lui et Freud, le Freud de la pulsion de répétition, qui impose une synonymie à la conscience, qui, elle, résiste, comme Foucault résiste, mais dont le but, je n'ose plus dire l'espérance, c'est l'explosion de cette synonymie et la résolution du symptôme. Je reprends brièvement. Si on interprète le devoir de Char collectivement, Milner écrit que la multiplicité des hommes doit être pensée comme inconsistante. Tout le savoir moderne, et en particulier ce moment moderne que les Allemands appellent la Wissenschaft, a consisté dans la recherche de ce point de consistance. Ce point de consistance où il sera permis de parler et de faire fonctionner des multiplicités parmi les hommes. À l'aide de ce point, le savoir allait pouvoir exposer en quoi le nom d'homme est collectivement synonyme quand on l'applique aux hommes. Le savoir moderne avait appelé ce point de consistance l'homme au singulier, H majuscule. Il lui a trouvé des synonymes, humanité, universalité, liberté, droit, etc. Foucault dit non à ce moment. Et c'est le résultat majeur de sa drôle de périodisation d'avoir pu établir la genèse et la clôture du moment du savoir moderne. Par la suite, on a des lectures de Foucault lisant Char qui font du premier soit un romantique, soit un postmoderne. La folie serait, par exemple, le lieu de la non-synonymie. Hein? On pourrait dire non à la série des synonymes en tablant sur une folie qui serait tapie au plus profond du cœur de l'homme. Mais Foucault, on le sait, a vite déchanté de cette vision. Ensuite, il a pris le vocable « corps » pour désigner ce qui fait exploser matériellement toute synonymie des hommes. Et je pense que cela est resté jusqu'au bout chez lui. L'instance de la non-synonymie, c'est le corps, vivant et mortel. Ce corps, ce papier, ce feu, ces mots tirés de Descartes, dans son conflit avec Derrida. Le corps de Foucault, silencieux, secret, porté à d'étranges débordements et attiré par d'étranges états limites. Rien ni personne est synonyme. Le devoir fut son devoir. La longue succession des synonymes, c'est son histoire, et le contredire est son dire. Ni la révolte, ni l'homosexualité, pas le sadomasochisme non plus, ou le sida, ou l'intelligence, ou le LSD. Tout ça, ce sont des synonymes auxquels Foucault dit non. On s'approche, en s'éloignant de notre affaire, qui est peut-être de travailler avec des synonymes, mais seulement pour un peu de temps, on s'approche donc de cet instant où un corps devient ce qui n'a de nom dans aucune langue. Je cite la conclusion de l'article de Milner, qui retrouve Kant, comme si souvent Foucault l'a retrouvé, comme une sorte de test de Rorschach, où il demandait qui il était en ce moment même, je cite Milner, revient alors la question, qu'un corps parlant ne peut poser qu'à soi seul, au bord du silence. Où suis-je? Qu'ai-je fait? Que dois-je faire encore? Merci beaucoup. Place à la discussion.
Avant la discussion, je voulais te demander si tu pouvais relire un passage qui paraît une méprise, mais que j'ai perdu.
Une méprise. Quelqu'un peut m'aider à contextualiser donc le mot-clé méprise, hein, en attendant d'avoir une...
Si tu ne trouves pas...
Je n'ai pas dit mon dernier mot, je vais le chercher pendant la discussion. C'est étrange comme Michel Foucault a fini un petit peu, j'ai envie de dire, on ne s'est pas consulté, les quatre membres là, de ce séminaire là, qui doivent animer ce séminaire, on ne s'est pas consulté, mais un petit peu, soit par hasard ou fatalement, Foucault a fini par avoir une place très importante dans la réflexion de ce séminaire cette année. Catherine Perret donc a pu faire un séminaire entier au centre Pompidou, centré, disons avec pour point de départ les théories esthétiques chez Foucault. Et puis donc entre Bernard et moi, c'est absolument évident là que tous les deux on a beaucoup appuyé le cas Foucault. Et Marc Crépon aussi a jugé obligatoire de signaler que sur son parcours, son premier livre, donc Géographie de l'esprit, était considéré comme un livre foucauldien avant qu'il amorce son tournant déridien. Donc tout ça pour dire que c'est quand même signifiant la place que Foucault a fini par avoir donc dans cette première moitié de la troisième année de notre séminaire.
Moi, je voudrais dire d'abord que ce n'est pas du tout un ennemi.
Non.
L'ennemi de Bernard, pas un ennemi. D'abord, les ennemis, j'en parle pas. Les adversaires. Les amis non plus, moi, je ne m'intéresse pas beaucoup. Enfin, j'en parle, ça m'intéresse, mais j'en parle pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'adversité qui vient. Les figures. À un moment donné de ferrailler un peu. D'autre part, j'ai reçu le divin marché de Dufour il y a 2 mois à peu près. Il est sorti il y a 2 mois. Et j'ai été extrêmement frappé, surpris de ce chapitre, c'est le troisième, le quatrième, où il s'en prend Foucault.
Oui.
Sur l'école. Ça m'a énormément surpris, parce qu'on n'en avait pas du tout parlé, lui et moi, hors de cette lettre de texte. Parce qu'au même moment, enfin, 2-3 mois en retard sur lui, je commentais les mêmes textes. Alors, pas tous les mêmes textes. En tout cas, certains, notamment les textes de surveiller de lui, avec une thèse qui ressemble beaucoup à la sienne.
Je sais bien.
Même si tu sais bien jusqu'à un certain moment, il n'a pas lu ma thèse. Encore. Mais même si, j'allais dire.
Je me base uniquement sur tes deux interventions donc, dans ce séminaire. Oui. C'est suffisant pour savoir qu'il y a de l'adversité dans l'air.
Ah, il y a de l'adversité, ça c'est sûr. Même si je pense que. La question, bon, la grande question que pose Daniel Dufour et qui est très intéressante, son livre est vraiment intéressant, parfois sûrement discutable, mais vraiment intéressant. En fait, ce qui articule le livre de Dufour, c'est Mandeville, c'est-à-dire une terre, XVIIe siècle, une grande source d'inspiration du libéralisme, dont Foucault n'a pas dit grand-chose ou rien du tout. Mangier étant un médecin, donc il soutient, je trouve que c'est le premier psychanalyste.
Le chapitre 10, c'est le dernier chapitre du livre.
Oui, ça c'est à la fin. Qui met, pourquoi le premier psychanalyste? Parce qu'il met la pulsion au cœur de tous les mécanismes humains. Et il dit que finalement, il fait caractère, une avance singulière de l'être vivant humain, c'est son rapport à la pulsion. Alors, je ne vais pas développer ce truc, ça c'est très intéressant. Mais il faut comprendre que c'est par rapport à cet objectif final qu'il écrit tout ce qui va s'être. Et que par conséquent, il va relire toute l'histoire du XXe siècle, depuis Freud jusqu'à maintenant, parce que sinon l'interprétation du freudisme, du lacanisme, des enjeux de la psychanalyse, il reprend des textes que j'ai moi-même commentés, en citant mes commentaires d'ailleurs sur Edward Bernays, c'est-à-dire deux personnages comme ça. Mais il veut montrer qu'en réalité, il y a un libéralisme qu'on ne connaissait pas, qui repose essentiellement sur l'encouragement des pulsions à leur déchaînement, et qui l'amène à réinterpréter énormément de choses, dont Foucault. Et c'est vrai que. Certaines phrases qu'il a écrites dans ce chapitre qu'on pourrait confondre avec celles que j'écris moi. Maintenant, la démarche que j'ai est assez différente, parce que je trouve qu'il va trop vite. Je trouve qu'il va trop vite. Justement, il fait de Foucault un ennemi. Alors après, la somme supérieure aux parties, il faut quand même interpréter ce qu'il dit. Il ne faut pas oublier ce que tu as cité toi-même tout à l'heure. Parce que tout ce qu'il dit de Foucault, ce n'est pas Foucault qui le dit. C'est du milieu dans lequel c'est la conjugaison de Foucault, Deleuze et Bourdieu a produit une certaine façon de
recevoir
Foucault.
Avec toi.
Ce n'est pas Foucault. C'est une certaine façon de le recevoir. Faire attention, ne pas lui faire dire, c'est pas exactement. Maintenant, moi je pense que la façon dont il fait travailler cette analyse n'accroche pas les questions de fond. Et en particulier, précisément, ce que j'appelle le problème de la pharmacologie. C'est quand même très très pauvre, les références au pharmacon dont tu as parlé tout à l'heure. Pour moi, ce ne sont pas des références au pharmacon. Moi aussi, j'ai pris du LSD à ces époques-là. Je veux dire, j'avais aucune portée du pharmacon, et à mon avis, pourquoi non plus. Là, je ne crois pas du tout que ce soit quelque chose qui a un rapport quelconque avec le pharmacon. C'est une façon de être pris dedans, et pas de le penser. Et précisément, la question. Tu as parlé très justement de la question de l'un et de l'unité et de la synonymie. Et s'il y a, je crois, une très grande question qui se rouvre dans la deuxième moitié du XXe siècle, en France en particulier, et qui mérite, qui fera que cette deuxième moitié du XXe siècle sera de toute façon irréductible dans l'histoire de la philosophie, c'est-à-dire qu'elle sera grandement. Par ces gens, bon Dieu, c'est une autre chose. Mais je ne dis pas que ce n'est pas grand, bon Dieu, mais c'est sur un autre plan pour moi. Je ne vois pas ce que vient foutre pour Dieu là-dedans. Ça n'est pas. Mais c'est la question de l'un et du multiple. Ce qui travaille tous ces gens-là, à partir des années 50, c'est l'un et le multiple. Ce qui fait que, et d'ailleurs, ça passe par Nietzsche, bien sûr, tous sont. Vectorisé par Nietzsche. Foucault et Deleuze sont évidemment bien plus solides. Mais n'empêche, et ce qui intéresse Deleuze dans Simon, donc, c'est que c'est aussi une prophète de l'un et de l'autre. C'est pour ça que je voulais que tu redis sur la méprise et tout ça, parce que tu es allé très vite là. Je ne dis pas que tu vas trop vite dans ta pensée, mais tu as dit une quantité de trucs. Je n'ai pas réussi moi, ça, à unifier ce soir. Mais en tout état de cause, dans un, tu as parlé de la main gauche et de la main droite, c'est une des choses que j'aime beaucoup, c'est une sorte de petite là. Il reste qu'une main gauche et une main droite, ça a une tête. Et que c'est la même tête, en principe, qui anime la main gauche et la main droite. C'est donc moi ce qui m'intéresse, c'est la tête, malgré tout. Bien que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Aux mains de l'entendement », pas un livre, un chapitre, j'ai parlé des mains de l'intellect. Un chapitre qui s'appelle comme ça. « Aux mains de l'intellect ». Bien entendu, il faut penser l'intellect par ses mains, mais il n'en reste pas moins que les mains. Les mains appartiennent à l'intellect. Et que Foucault peut toujours avoir des expériences, changer de main, etc., etc., parfois pour faire des trucs de deuxième main, souvent la main gauche, le problème qu'elle a, c'est qu'elle ne sait faire que des trucs de deuxième main, pas en propre, c'est pour ça qu'elle est gauche. Il n'en reste pas moins que ce qui fait qu'une pensée est une pensée, c'est qu'elle est une pensée, et pas 50, même deux. La même où elle se contredit, la même où elle entre en guerre avec elle-même, etc., c'est encore la même pensée. J'étais, alors là, ça tombe vraiment hasard, tout à fait magnifique d'ailleurs. Hier soir, j'ai relu le jour d'échec de Stéphane Zweig. Vous avez vu ce truc-là ? Histoire qui m'a été envoyée quand j'étais en prison. Et l'histoire raconte l'histoire d'un type qui est un emprisonné et qui, pour se sauver de la folie, essaye de jouer d'échec et est appelé à jouer d'échec contre lui-même. Évidemment, on le rend fou. Le Foucault passe. Je dis ça parce que pour moi, le joueur d'échec, quand j'ai relu cette nouvelle, j'avais lu plusieurs fois avant, hier, je me suis dit, je vais faire un truc sur Stefan Zweig et Platon. Parce que j'avais fait un truc sur la dialectique après avoir lu ce texte, il y a une trentaine d'années, où j'avais décrit la dialectique comme une partie d'échec. Et comme on le sait, Platon définit la pensée comme une dialectique, c'est-à-dire diaboïa. Et donc, si j'avais raison, comme une partie d'échec. Et Zweig montre qu'on ne peut pas jouer contre soi-même aux échecs. Ce dont je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Et d'ailleurs, Zweig non plus, puisqu'il dit, il fait dire à son héros qui s'appelle Mr. B, peut-être que si j'avais eu un échiquier, j'aurais vraiment pu jouer contre moi-même. Si je joue de mémoire contre lui-même. Il dit par contre, s'il y avait eu Nupom Nematon, alors il dit, admettons que ça, ce soit l'échiquier 64, alors il dit, j'aurais dû passer de l'autre côté et me mettre dans la place de B pour jouer contre A et A. Alors j'aurais changé de position et du coup j'aurais pu me dialectiser. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que ce qui ne fonctionne pas chez Foucault, pour moi, mais qui est une question permanente chez lui, c'est cette question de la technique. Quelle est la femme ? Je dis ça parce que, à quoi il s'intéresse dans ses premiers textes ? L'histoire de la naissance de la clinique, les techniques médicales, puis l'épistémé à travers les archives, c'est-à-dire ce qui est très très vite en train de devenir la technique, ce qui se révèle dans l'archéologie, savoir comme étant la technique, puis les techniques du pouvoir, dans le biopouvoir, puis etc. Et à travers tout ça, la technique, c'est derrière la technique, c'est l'écriture qui est en jeu. Et ça, ce sont des choses absolument permanentes, c'est le fil conducteur de toutes ces non-synonymies, qui ne produit pas une synonymie, mais une harmonie. Et autrement dit, proximité. Là où je ne suis pas sûr de suivre vraiment Dany Robert Dufour, c'est que comme il ne reconnaît pas la question du pharmacon, il ne voit pas quel est l'enjeu. Parce qu'évidemment, il faut faire crédit à Foucault dans tous les cas. Pas comme ça dire il a habillé la prison, l'école, l'usine, la caserne, tout ça c'est la même chose. Donc il était du côté de Robert de Mandeville. Mais en même temps, il y a des logiques. C'est qu'un technique, c'est ce qui permet de lier les pulsions en même temps que de les déchaîner. C'est ça la question de l'art, de la miséricorde et du pharmacon. Et que du coup, si on n'arrive pas, c'est évidemment ça ma thèse centrale et obsessionnelle, si on n'arrive pas à tenir ce truc, alors on perd à tous les coups. À tous les coups. Soit, enfin, dans un sens, soit dans un autre, on perd en tous les cas. Ça ne veut pas dire que ni que Dufaux a raison, ni qu'il a tort. Je pense qu'il faut le lire. Il ne faut pas faire avec Dufaux ce que tu reproches à Dufaux de faire beaucoup. Parce que je pense qu'il y a une logique derrière tout ça, qui est un petit peu éruptive parfois, effectivement. Quand tu parlais des tags et tout ça, alors là je suis totalement d'accord. Je ne suis pas sûr non plus que Dufaux dise exactement ça. Bah bon, ça le tente comme ça tente tout le monde. Ça nous tente tous. Hein. C'est ça notre. La guerre contre nous-mêmes aussi. Nous sommes tentés en permanence. Mais là où c'est vraiment intéressant ce qu'il raconte, et plus ça avance, plus l'égo est intéressant. Plus ça ne m'intéresse pas tellement, c'est ce que je dis. C'est pas ni un adversaire, ni. Mais plus ça avance, plus c'est singulier, je trouve. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est quand il dit qu'on perd l'histoire de la conscience. Dernier chapitre. Il faut faire une histoire de l'inconscient, il faut faire une histoire du surmoi, etc. Et ça, je pense que c'est ce que toute la pensée du XXe siècle a échoué à penser. Ce que disait, en revenant au XXe siècle, c'était Denis et nous, disant si nous voulons penser le XXIe siècle, enfin le XXIe siècle, il faut être capable de penser le XXe, et si on est capable de penser le XXe, il faut être capable de penser ce qui n'a pas pensé au XXe. Ce qui nous donne à penser au XXIe siècle, dans le 20e, qui n'a pas été pensé par le 20e. Eh bien, moi, je pense que c'est ça. C'est un rapport à l'inconscient qui n'a pas encore réussi à se penser. J'en veux pour preuve, d'ailleurs, l'intervention de cet Ibn Slama dans la discussion que j'ai eu avec lui dans le 21. Et il y a un interdit, une grande partie de l'héritage freudien et lacanien, dont Foucault fait partie. Soit un premier ou un lacanien, mais en permanence il est en discussion avec le désir, donc avec la pensée. Il y a quelque chose qui est un interdit, c'est de poser cette question d'historicité des structures de la psyché, des structures freudiennes de la psyché. Alors, soit on l'interdit, soit on le dit, mais sans jamais le problématiser. Par exemple, moi, je vais beaucoup en ce moment dans des congrès de psychiatrie, dans des associations de psychanalystes, dans des réunions de pédopsychiatres, de travailleurs sociaux, de psychologues, beaucoup, une fois par mois. C'est ça qui est en jeu, c'est-à-dire comment. Alors, la fameuse, ce que certains appellent une rupture anthropologique, c'est pas forcément chez les psychanalystes, c'est plutôt sociologue. Mais ça se dit comme ça, sans qu'on semble mesurer ou vouloir prendre en compte l'énorme question qui se pose derrière ça. Et là, je pense que Tony Robert Dufaux est très très intéressant. Parce que d'un seul coup, il pose les trucs. Et il dit bon, moi, je ne suis pas pour la figure du Père. Il parle du nom du Père Enoël et du nom du Père Enoël en disant on ne peut pas se passer de cette figure-là, mais c'est pas le Père, c'est pas forcément le Père. C'est la paternité, c'est la parentalité, comme dit la François Richard, etc. Enfin, il a le grand mérite de ce livre, c'est de poser ses problèmes. C'est de les poser très courageusement, d'ailleurs. Après, comme souvent quand on est courageux, on est un peu téméraire aussi. Il faut un peu de témérité pour être courageux. Il faut un peu de folie. Témérité, fort. La conscience, en tout cas. Voilà. Et du coup, ça fait que ça part. Mais moi, je veux défendre ce livre, surtout dans sa fin.
Ah oui, le 10e chapitre, là, je pense que c'est déjà inscrit pour une. On va rester longtemps, je pense, dans les attendus du 10e chapitre et dans les attentes. Hein.
Il n'y a pas d'autre question, nous attendons. la guerre. Il se dit beaucoup, Derrida l'a dit souvent, qu'aujourd'hui nous sommes à impossibilité de faire la guerre, au sens d'une guerre mondiale en tout cas. Bien sûr qu'il y a plein de petites guerres partout, malheureusement. Parce que nous sommes capables de le savoir. Mais néanmoins, il n'y a pas de guerre, au sens où on connaît des guerres. Napoléon, et surtout la Première Guerre mondiale. Il y a quasi impossibilité de cette guerre. On parlait d'Alain Jax, peut-être qu'on en parlera avec lui bientôt, on espère, à ce sujet. Mais en tout cas, Derrida, tu le sais bien, la guerre économique. Il disait toujours, mais bien sûr que si, nous sommes en guerre, c'est une guerre économique. Moi-même, j'ai mis une note, je ne sais plus dans quel livre, peut-être dans le dernier, où je dis qu'il faudrait mettre en place des accords de protection des victimes de la guerre économique, des accords internationaux, pour que, tout comme on dit qu'on n'a pas le droit de massacrer les populations civiles dans les guerres, qu'il y a la Croix-Rouge qui doit pouvoir protéger les prisonniers, etc., pourrait être en matière de guerre économique imposer un droit de la guerre économique, qui à mon avis n'existe pas du tout, parce que précisément l'économie n'est pas du cas, la guerre économique n'est pas l'état économique de guerre, l'économie c'est une activité humaine pacifique, qu'elle n'est plus du tout, à mon avis. Et en même temps, la guerre c'est la confrontation à la mort. Donc qu'est-ce que tu penses de cette expression de guerre économique? Voilà ma question. Et quelle place elle vient prendre, si tu lui donnes un certain crédit à cette expression, dans ton discours sur la guerre?
Moi, je proviens donc d'une lecture et d'un enseignement donc des thèses de Jameson, c'est-à-dire là d'une structure de pensée et d'un affect de pensée essentiellement marxiste. Donc la guerre économique, c'est véritablement une guerre. Le problème que j'ai avec Jameson, le problème que j'ai avec les marxistes en général, c'est que la guerre économique n'est pas suffisamment psychologisée pour mon goût. Je pense que cette guerre économique maintenant a pour champ de manœuvre, c'est une des grandes thèses de notre association, hein, a pour champ de manœuvre et d'activité, d'exploitation, la conscience des hommes. Jameson dit ça en passant dans un bouquin là de 800 pages. Il dit ça peut-être 3 ou 4 fois, c'est seulement 2 pages en tout. Et pour lui, là, ce qui compte dans la guerre économique, c'est d'une part la disparition de l'agriculture, et seulement dans un deuxième temps, la guerre pour la domination et l'exploitation des consciences. Donc il y a, ça bouge beaucoup en ce moment. J'ai appelé ça tout à l'heure là, la discrimination des guerres comme vocables qui ne sont pas synonymes. Mais ça c'est sûr et certain que la guerre économique, le vocable économique, c'est le nerf de cette guerre. Je ne crois pas que ça soit une question de dernière instance. Je pense que toute cette formulation entre infrastructure et comment dire, superstructures, ça me paraît pas tenable. La seule chose qui compte pour moi, pour nommer et tenir à la spécificité du travail de ce séminaire, c'est la phrase « nous sommes en guerre ». Et je pense que nous sommes en guerre depuis bien plus longtemps qu'on pourrait l'imaginer. À un moment donné, Jameson le dit encore là, c'est comme une espèce de flash Puis après, là, il y a des habitudes qu'il a contractées en tant que vieux marxiste, là, presque la Troisième Internationale. Mais à un moment donné, il dit le XXe siècle n'aura été qu'une guerre, avec quelques trêves. J'ai fait état à cette phrase sur deux ou trois pages donc de mon intervention ce soir.
En parlant de guerre économique, je trouve que ça implique effectivement la notion de guerre des nations, de guerre d'exploitation de classe. Alors que pour moi, alors que je pense que le problème que j'entends par là, ce serait plutôt la marchandisation des modes de vie, l'empiétement par les acteurs du marché, qui là nous. Parler plus de pouvoir, de petits co-pouvoirs, c'est là où je pense que les enjeux sont. Parce que, effectivement, on peut essayer de trouver des droits pour ceux qui sont rejetés, qui sont les exclus, mais le problème de la guerre, c'est le problème petit à petit, le terrain qui gagne, vous allez dire, pour empiéter sur tous les potentiels de vie par lesquels. Qui est échappé, j'allais dire, à la marchandisation. Et on voit tous les jours gagner du terrain.
C'est là que le bouquin de. Je ne vais pas revenir sur le bouquin de Dufour, mais justement, symptomatique. Et ça peut être très dévalorisant de dire quelque chose que c'est symptomatique, ou au contraire, ça peut être valorisant. Là, c'est valorisant. Il fait signe. Est l'indice de quelque chose qui nous dépasse et qui est tension de l'époque. Parce que, pourquoi est-ce que je posais cette question de la guerre ? Parce que je me méfie toujours des usages métaphoriques des mots, hein, comme tous les philosophes. Donc, on fait attention à une guerre, c'est quelque chose de précis. Il y a des buts de guerre, il y a des armées, il y a des victimes, il y a des victoires, il y a des victorieux, et puis il y a des conditions qu'il faut décrire à chaque fois. On pourrait, dans la guerre économique, on peut décrire tout ça. Les buts de guerre, ça c'est très clair. L'OPA aussi, c'est un truc de guerre. Bon. Les victimes, ça malheureusement, on en voit plein les journaux, on en voit plein les rues. Sortir là, on en verra sur les trottoirs, bon, etc., etc. Il y en a partout, hein, et ça ne nous choque pas plus que ça, d'ailleurs. Marquons-le toujours en passant, n'oublions jamais ça. Mais pour moi, qu'une guerre est une guerre, c'est que la pulsion règne. C'est qu'à la guerre, on a le droit de tuer son prochain. Et qu'on a le droit, on n'a justement pas le droit, mais on nous le donne, et non seulement on nous le donne, mais on nous impose, on nous en fait un devoir de protéger la nation. C'est-à-dire, tout à coup, ce qui était avant un interdit, on n'avait pas le droit de faire, devient un devoir. C'est ça la guerre. Bon, c'est là que un film comme La question humaine, dont on a beaucoup discuté, question autour de ce film, mais c'est là qu'il touche à quelque chose d'intéressant. D'un seul coup, on met des gens dans une situation d'avoir le droit de faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et ça, c'est la guerre. Quand on te dit, tiens, voilà un flingue, il y a un type en face, tue-le, alors qu'on t'a dit pendant des années, tu ne tueras point, pas simplement en tant que chrétien, mais en tant qu'homme civilisé, tout simplement, obligé d'être chrétien ou monothéiste ou musulman pour ne pas vouloir faire. Être non humain. D'un seul coup, si t'es un homme, tu le crois. C'est-à-dire, bon. Et ça, il faut mesurer ce que ça veut dire si on parle de guerre économique. C'est pour ça que je veux rapporter, alors je ne vais pas répondre à ce que vous avez dit, ça à la question de la pulsion. Et que du coup, en effet, c'est là qu'est intéressante la référence à Mandeville. Parce que Mandeville, il dit en gros, faites la guerre, voilà, pas l'amour. Ou si vous voulez faire l'amour, ben faites-le dans la guerre. C'est-à-dire aimer par pulsion et pas par sublimation. Parce que c'est ça qui est derrière. Et la guerre faite par la marchandisation généralisée, à quoi est-ce qu'elle est faite ? À la sublimation. On fait la guerre à la sublimation. Et c'est bien pour ça que Dufour peut s'en prendre à propos de Dieu, Deleuze, de Foucault. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec lui, parce que Foucault et Deleuze, c'est pas du tout. Là, pour le coup, je ne suis pas du tout d'accord. Mais en tout cas, cette constellation qu'il décrit, il la décrit comme une machine à détruire la sublimation. Donc une machine de guerre libéraliste.
Je voudrais dire quelque chose, parce que nous avons parlé de guerre économique, et c'est tout à fait lié les deux, là. L'addiction à des jeux ou à la philosophie ou à la poésie, comme vous le disiez la dernière fois, enfin, on peut les mettre sous un chapitre, mais je pense que c'est pas du tout comparable. La guerre économique, pour moi, elle est devenue quelque chose que je résume comme ça. C'est l'être humain qui est devenu un fétiche. C'est-à-dire qu'il y a des réserves de pays où on produit, des réserves d'acheteurs, et des réserves de gens solvables, et des réserves de un petit peu plus ensoleillées, où on va placer ou acheter des lieux, où on va se mettre au soleil et vivre luxueusement. Donc je pense que c'est l'être humain qui est fétichisé. C'est plus le secret de la marchandise de fétiche comme dit Marx, mais l'être humain qui est devenu le fétiche. Et actuellement, la guerre, c'est j'ai une réserve de temps de travailleurs à tel prix. J'ai une réserve de consommateurs qui ont tel pouvoir d'achat. Et c'est pour ça que l'addiction, je relirai à ce que vous disiez précédemment, l'addiction, elle est dans le temps passé à produire. C'est-à-dire que les pays capables de produire certaines choses à un tel prix tiennent des fétiches et non plus des êtres humains qui sont des citoyens qui ont un libre arbitre et qui participent aux décisions. Voilà. Donc je pense que c'est là où il y a une déshumanisation. Et là, je reviendrai à quelque chose, bon, je vais vous poser une question, mais qui passe par un petit exemple très extérieur. Il y a en ce moment quelque chose qui s'appelle le plancher de Jeannot, qui est exposé dans la rue Cabanis, le long de l'hôpital Sainte-Anne.
Le plancher de ?
De Jeannot. Alors c'est un objet très étrange, je ne sais pas si quelqu'un ici sait ce que c'est. C'est un plancher qu'un fils de fermier a gravé avec un clou. Il y a eu beaucoup d'articles qui sont parus dans. Et ce plancher a failli finir au feu ou dans un tas d'ordures. Il a été gravé par un fils de fermier, donc, qui était enfermé dans sa chambre après la mort de sa mère, et qui, avec un clou, a écrit des phrases. Il a parlé de sa vie. Et là, je vais très loin. C'est quelqu'un qui savait donc écrire. Moi, j'apparente cet homme au lettrisme, mais aussi à une très très grave détérioration mentale, puisqu'il s'est enfermé pendant 6 mois. Enfin, tout est expliqué sur le trottoir de la rue Cabanis. Il faut vraiment aller le voir. Donc là, on a un homme éduqué qui vivait complètement en dehors du monde dans une ferme, avec un entourage très, très maladif, enfin, pas de vie sociale. Et donc là, j'en reviendrai. Est-ce que c'est pas dans l'éducation que réside le pharmacon? Voilà un homme qui sait écrire, qui a quelque chose à dire parce que le texte est très intéressant et qui n'arrive à le dire qu'en le gravant sur un plancher. Et là, c'est un laboratoire japonais qui a acheté cette œuvre, enfin cet objet, et qui s'inquiète de la maladie mentale et du traitement qui, depuis des années, a été appliqué à énormément de gens. Donc là, ma question est, l'addiction, c'est un petit peu dans les technologies, c'est l'attention qui est captée, l'individu qui est occupé et surveillé de la même façon. Parce que je crois qu'actuellement on arrive à un stade de surveillance permanente, mais pas tellement de l'état mental réellement ou de la capacité des gens à vivre cette technologie de manière saine où ils la dominent, mais dans le jeu par exemple, il y a énormément de gens qui sont drogués au jeu. Et le jeu économique également, les gens qui jouent en bourse en ligne et qui jouent de plus en plus à des jeux de cartes, etc., c'est également une technique. Donc en fait, c'est là où ils deviennent fétiches, ils n'ont plus du tout un libre arbitre, ni une vie intellectuelle maîtrisée, ils sont simplement dans une espèce de jeu, disons différentes cases dans lesquelles ils se trouvent constamment repoussés et dirigés. Voilà. Donc ma question, est-ce que ce n'est pas dans une éducation qui n'appartient plus tellement aux individus et à leurs décisions que réside la part de le pharmacon.
Le pharmacon, pour moi, il réside partout. Mais effectivement, c'est l'éducation. Directement, la question du pharmacon, la question de la pharmacologie, parce que le pharmacon est une chose, la pharmacologie, c'est plus important. Je donne ce statut à la question du pharmacon, de devoir être une pharmacologiste, il y a une description des pharmacas propres aux époques de tous les êtres humains, parce que les êtres humains sont pharmacons. Ça, c'est le point de départ de mon discours ici. Les êtres humains sont pharmacons. Pas d'être humain sans pharmacologie. C'est une bonne idée. Après, il n'y a pas de pharmacologie viable, digne, dignement viable, sans thérapeutique. Et que la thérapeutique n'est pas réductible à la pharmacologie. Et il n'y a pas de thérapeutique sans pharmacologie. Par contre, il peut y avoir des pharmacologies sans thérapeutique. Par exemple, la guerre est une pharmacologie sans thérapeutique. Le gaz moutarde, enfin, etc. C'est ça le. La guerre, c'est vous avez le droit d'utiliser vos pharmacas comme vous voulez, pourvu que. Voilà. Et la guerre économique, c'est aussi ça. Maintenant, le fétiche. C'est très intéressant ce que vous disiez sur le fétiche, c'est l'homme aujourd'hui. Bon, ça mérite, ça nécessiterait beaucoup d'explications. Mais moi, je dis un peu la même chose. Donc, j'écris ça, des choses très profondes. Disons, quand ça me fatiguait, fétichisme de la marchandise, c'est autrement plus compliqué et autrement plus grave que ça, le sujet du fétichisme. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue à l'IRCAM, qui avait bien énervé. Bon, ça, fétichisme, c'est bien plus compliqué que le fétichisme de la marchandise, malheureusement. Et ce que vous disiez, j'y crois beaucoup. Mais justement, qu'est-ce qui fait que les êtres humains, les marchandises, tout ça, peuvent être fétichisés comme ça? C'est qu'ils sont pharmacologiques. Pharmacon est fétichique, si je veux dire, pas fétichiste, mais fétichique. La puissance fétiche de ce que toute l'anthropologie va identifier chez dans les sociétés fétichistes, c'est la puissance d'action à distance, par exemple, tout ça, et c'est une pharmacologie. Et d'ailleurs, ceux qui manipulent ces fétiches sont les hommes, c'est-à-dire ceux qui ce sont les hommes médecine, les hommes pharmacie. Des hommes thérapeutiques et pas la même chose, etc. etc. Voilà. Après, sur l'addiction, je n'ai pas bien compris quelle était votre question. C'est vraiment. Avant, on a eu cette discussion avec vous autrefois. C'est complexe, hein, cette question de l'addiction, mais moi, je veux dénégativer l'addiction. Je pense que. Si on commence par dire c'est pas bon l'addiction, alors on peut pas la penser. Après, bien entendu, dire que la poésie, le jeu vidéo, etc., c'est tout ça, c'est de toute façon l'addiction et que ça revient, non, c'est pas ce qu'on a voulu dire, hein, du tout.
Là, je sais pas si vous connaissez un philosophe coréen qui était invité au collège de France, qui s'appelle Dong Yoon-sum. Il a été invité par Madame Fagot-Largeau dans le cadre d'une journée de conférence, justement sur la numérisation. Et philosophe coréen, je suppose, coréen du Sud, mais il a exprimé en anglais, il a fait ça pour son communiqué en anglais, une très grande inquiétude, justement, vis-à-vis de l'oubli du corps dans l'addiction aux jeux vidéo, qui leur arrive beaucoup en Chine. Et j'ai assisté à quelque chose de très étonnant, je ne sais pas pourquoi ils l'ont invité pour l'insulter, parce qu'ils lui ont carrément dit que les Asiatiques ne comprenaient rien aux mathématiques pour être aussi, pas distants, mais inquiets vis-à-vis de ça, vis-à-vis des jeux informatiques et de la numérisation. Et donc, ça a été terrible les réactions qu'il y a eu après par rapport à ce qu'ils ont invité. Parler du monde virtuel, qui disait justement ce qui est terrible, c'est que dans les ordinateurs, le corps est oublié. On est dans le virtuel et les gens qui deviennent addicts chez nous sont des gens qui jouent, qui passent un temps fou, qui finissent par oublier de manger. Enfin bon, dans le monde des jeux vidéo, ils connaissent bien ça, les gens live, etc. Il disait que les Asiatiques ont une très très grande facilité à partir dans ce truc-là. Ce philosophe coréen, je pense qu'il est intéressant à dire, c'est qu'il a publié en français, mais c'était très étonnant de voir sa réaction et voir la difficulté de gens qui sont des chercheurs, je pense qu'ils sont dans des bureaux de recherche, mais justement ce monde asiatique, peut-être moins le continent indien, il y a un passage très difficile, justement. Et est-ce que la guerre, ce n'est pas aussi un très très grand différentiel de langue de communication et d'univers dans lequel on communique?
C'est la destruction des relations.
Moi, je voulais juste relever en passant des choses sur lesquelles je souhaiterais revenir. Je ne sais pas sur quelle forme, mais il nous reste encore deux séances donc, au premier semestre, et on a prévu trois pour le deuxième semestre. Donc, dans ce dispositif-là, j'aimerais bien qu'on revienne sur les choses suivantes. Premièrement, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce qui fait que la guerre que nous pointons et qui nous pointe, ce n'est pas de l'ordre de la métaphore. Ça me paraît excessivement singulier hein, de dire ça. Et puis avec tout ce mouvement donc imprimé aussi bien chez moi que chez toi et chez nous, qui consiste à dire on va pouvoir vous montrer qu'il s'agit d'une guerre, hein, une véritable discrimination d'une guerre non métaphorique. Premier point. Deuxième point, entre l'un et le multiple, et la différence entre le psychique et le collectif. Moi, mon problème, je dis ça là comme si c'était un aveu là de perversion personnelle, je pense que c'est pas très intéressant ça, mais... mon problème, j'ai une de ces envies de faire la guerre. Et j'ai l'impression, en disant ça, qu'il y a beaucoup de gens qui me ressemblent et qui étanchent cette espèce d'envie entre la pulsion et le désir avec des pratiques qui sont pour moi aberrantes. Mais enfin, là, je partage avec eux je ne sais pas si c'est uniquement pulsionnel. Moi, j'oserais dire qu'il en va de mon désir. Hein. J'aimerais bien que la maison coule.
Vouloir faire la guerre, vouloir que la maison coule, c'est pas la même chose.
Ouais. Enfin, voilà les deux choses sur lesquelles je souhaiterais qu'on revienne.
Mais trouvons les armes.
Et tu viens poser une question très très importante, c'est que j'attendais, enfin, voilà, qui était un petit peu sous-jacente, ce qu'on appelle dans le séminaire, on appelle pour une polymorphie de l'esprit, c'est le sous-titre. Les nouvelles armes, les armes qui servent à faire la guerre, et sous-titre pour une polymorphie de l'esprit. Donc ça veut dire qu'on pose en principe dans ce séminaire que l'esprit est en guerre. Et ça, on peut le poser dans un esprit va-t-en-guerre, si je puis dire. C'est un discours de va-t-en-guerre, hein, mais bon. J'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit évidemment un petit peu parce que ça avait donné, que la guerre, la vraie guerre, la guerre non métaphorique, la guerre telle qu'on en parle d'habitude, c'est là où les pulsions peuvent se déchaîner, où il y a une inversion des valeurs, c'est-à-dire que tout ce qui était interdit devient autorisé, etc. Il fallait ne pas tuer, maintenant il faut tuer. Il fallait être courageux de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas ceci, de ne pas cela, il faut avoir le courage au contraire de. Parce qu'il faut du courage à la guerre. Et j'ai présenté ça comme la règne des pulsions, mais évidemment c'est tout à fait faux, parce qu'il y a des héros à la guerre, et que les héros, ils ne sont pas pulsionnels, ils sont désirants.
Ouais.
Si on ne s'identifie pas à la nation pendant qu'on fait la guerre, pour la patrie, à mourir pour la patrie, c'est le sacrifice la guerre. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de guerre. Il y a une boucherie, mais il n'y a pas de guerre. Et s'il y a du sacrifice, il n'y a pas que de la pulsion, il y a eu de la mort de la civilisation. Le sacrifice, on va dire que c'est la des figures les plus universelles et les plus sublimes de la situation. Voilà. Et je voudrais rappeler que la conférence que j'ai faite pour commencer cette année était consacrée à la bataille de l'intelligence. Je crois que ça finirait bataille de l'intelligence, ça veut dire guerre. Mais qui est précisément présentée comme une guerre économique. C'est-à-dire que la guerre de l'intelligence, c'est une guerre économique. quoi je dis, nous disons, je crois, et c'est dans cet esprit que la guerre économique, c'est une guerre de l'économie libidinale, que donc c'est une guerre du désir contre lui-même en réalité. Parce que c'est lui-même que le désir combat. Toujours.
Oui, Simon.
J'avais une question en rapport avec la conférence de la semaine dernière, parce que ça touche, je pense, la question des armes et de la guerre. C'était pour savoir si on ne pouvait pas imaginer qu'il y ait plusieurs régimes de dépendance. Alors, j'en vois deux. Bon, un régime de dépendance à la prothèse, au sens où je suis dépendant des prothèses que je viens d'utiliser pour formuler le phrase. Et un régime de dépendance à la poésie. Dans le sens où je désire, je crée des objets de désir, enfin, je trouve des objets de désir, ce que vous. Je reprends un peu, donc être dépendant d'armes auxquelles je fais quasiment pas attention et que j'utilise naturellement sans aperception, sans les apercevoir, et des armes, pas des armes, donc me créer une nouvelle dépendance. Dans les œuvres de la littérature, comme on disait la semaine dernière. Alors je crois que, en fait, je demande juste quelques explications sur le sens global de la conférence de la semaine dernière.
Oui, ça va. Moi, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à une question pareille. Là. Je me réfugie là, derrière le temps qui passe, parce que là, il faudrait tout reprendre. Là, essentiellement, moi, j'ai proposé la semaine dernière une traduction pour le pharmacon. Hein? Je ne sais pas ce que tu as pensé de ça. Hein? Le pharmacon, c'est « no use without abuse ». Il faudrait traduire ça maintenant. On ne peut pas imaginer une utilisation ou une pratique sans accepter le risque que dès le départ, ça déborde et que ça se gauchit, que ça devient aberrant. Hein, on peut pas viser une pratique purement positive
et sans danger.
Et par rapport à la question donc de divers régimes de dépendance. Moi, j'ai deux réactions. La première, c'est de dire oui, bien entendu, on peut effectivement beaucoup compter sur Wordsworth, hein, pour ne pas tomber dans l'abîme donc de l'addiction à la drogue, si on s'appelle Thomas de Quincy. Vivre donc des régimes divers et variés. Mais ma deuxième réaction, c'est que là, je ne voudrais surtout pas que la hiérarchie, donc dans les régimes, nous cache le fait que le principe de base, l'axiome, c'est que où que tu sois sur cette échelle, eh bien, il y a toujours de multiples occasions pour tomber. Et que ça rend donc cette échelle qui est connotée positivement. Là, plus on monte, mieux c'est. Non. À chaque moment donc de l'échelle des régimes de dépendance, il y a donc des dangers qui reposent tout le système à nouveau frais. Qu'est-ce que je veux Où est-ce que je vais? Où est mon désir? N'importe quelle hauteur ou profondeur là, sur cette échelle de régime de dépendance, on peut très bien répondre, j'ai envie de disparaître, ou j'ai envie de m'abîmer. Il y a une chanson là, des Black Eyed Peas, je ne suis pas sûr de bien entendre. Mais la phrase clé, c'est ce soir, abîmons-nous ensemble. Mais Peut-être c'est uniquement distrayons-nous. Je ne suis pas sûr. Ce n'est pas pour rien que j'arrive pas à capter le sens de ça. Enfin, voilà, en guise de réponse, oui, donc, au régime de dépendance, à la prothèse, à la poésie, aux écrans, aux jeux vidéo, à la littérature, à la musique, au travail, parce que ça, c'était donc ta grande réponse la semaine dernière, c'est que toi, tu as réussi donc tout un travail de renonciation au nom d'un travail à accomplir. J'oserais appeler ça un régime de dépendance. Et puis deuxièmement, donc, c'est vrai que mon souci dans cette histoire, là, dès qu'on commence à faire comme une fleur japonaise là, qui s'épanouit dans l'eau, dès qu'on a affaire donc, à cette multiplicité de régimes, la question de l'un, pour moi, est une question tout de suite dédoublée. Est-ce que je vais à l'avant, de l'avant? Est-ce que je vais glisser en arrière? À un moment donné, on ne sait plus très bien. Et c'est là où c'est bon d'avoir, donc, parmi les hypomnémata, quelques lettres d'amis, quelques interventions d'amis pour dire « Hey, stop, attention, fais attention. » Attention aux synonymes.
Attention aux synonymes. Mais il faut bien avoir conscience que chez Platon, la poésie, c'est l'exemple même de l'addiction, de la dépendance, etc. Et Platon n'est pas le premier des dépendants. Donc, il y a des bonnes raisons à ça. Pour moi, la bonne raison, je ne veux pas dire que je partage le point de Platon. Hein. Le discours de Platon sur ce sujet, pas du tout. Je ne peux jamais dire pas du tout avec Platon. Mais, quand on parle de la poésie, la poésie, ça n'est pas le résultat que peut produire l'état d'âme que peut produire sur moi. Donc, ça peut être une expérience poétique que je recherche, moi, beaucoup. Mais il faut prendre le tout. Et le tout, c'est la pratique. Et la pratique est une pratique technique. Les vrais amateurs de poésie ont une pratique technique. C'est rituel. Mécanique, c'est comme ça que moi, c'est quelque chose de profondément mécanique dans la poésie, parce que d'ailleurs pas d'homme. Et sinon c'est pas la poésie. Et c'est pour ça que Platon peut dire ça, mais c'est aussi pour ça qu'on pouvait dire ça nous, je crois. C'est important d'insister là-dessus. Pas de poésie sans mécanique, dit Platon.
Je pensais surtout en parlant des mots qui ne sont pas poétiques, mais qui sont quand même des besoins pour les dont on dépend.
Oui, bien sûr, mais ce que dit Platon, et là je pense qu'il n'est pas complètement tort, c'est que pour pouvoir produire de la poésie, il faut mettre en œuvre des prothèses qui ne sont pas poétiques. Il se trouve qu'elles peuvent être poétiques dans certaines circonstances. Mais, tout comme Michaud ou machin, Peyote ou que. Ou de la mescaline, etc., ce sont des prothèses pas du tout poétiques. Ça n'a absolument rien rien du tout. C'est la misère.
Et pourtant, on peut faire des mangeurs d'étoiles.
Là, je voudrais d'ailleurs dire que entre Thomas de Quincy, prendre de l'opium, et Foucault qui prend du LSD, c'est pas du tout.
Ah oui, oui, oui.
Parce que l'opium, c'est tout un art. L'LSD, c'est pas un art. L'LSD, c'est un passage à l'acte. On n'a pas une pratique de LSD. Il n'y a pas de pratique de LSD. De toute façon, l'LSD, c'est archi-destructif.
Ah, c'est un rituel.
Et c'est un passage à l'acte. Non, non, c'est pas simplement que c'est un rituel. Il faut apprendre à fumer de l'opium ou à consommer de l'opium. Ça n'arrive pas comme ça, l'opium. Il faut que c'est tout une pratique. Et vous pouvez me détruire à l'opium, mais vous pouvez ne pas me détruire. C'est une civilisation, l'opium. Civilisation de l'opium. Il n'y a pas de civilisation de l'opium. Je ne dis pas ça pour dire que le LSD c'est pas bien, que l'opium c'est bien, hein. C'est pas du tout ce que je veux dire.
Mais c'est important.
Le LSD n'a pas fait civilisation. Et qu'on a pu, dans les années 70, ou dans les années 60, bien avant le coup, prendre des tripes, comme on disait à l'époque, pour passer à l'acte, c'est-à-dire que c'était inscrit dans une certaine pratique qui n'a rien à voir, à mon avis, avec la pratique de l'opium d'un de Quincy, je crois.
Moi, je suis d'accord avec toi.
Tout ce qu'on pratique dans les trucs, on est initié d'abord. On dit toujours, on se fait initier de l'opium. Même le hashish, on se fait un peu initié. Le LSD, on est initié. Super bas, en tout cas.
Qu'est-ce qu'on va penser de nous, Berlin?
Qu'est-ce qu'on va penser de nous? On ne dit pas les mêmes choses que.
Mais par rapport au problème de l'addiction, juste un coup d'œil avant de venir là, du soin de Foucault, il parle beaucoup de l'ascèse,
oui.
En disant se constituer un moyen de défense face aux événements de la vie, alors par des pratiques d'écriture, ça peut être pour se nourrir et arriver à se défendre contre ce qu'il appelle les événements de la vie. Donc c'est pas une pratique de combat, mais de défense. Pour arriver à ce qu'il appelle la vieillesse, c'est-à-dire à la maîtrise des passions, la maîtrise de soi-même et une certaine, certaine sérénité. Enfin bon, et on peut être, il va même se dire, on peut être arrivé à ce stade de la vieillesse jeune. Enfin bon, je crois que. Mais effectivement, c'est pas du tout de. Mais enfin, je crois que enfin, moi ça m'a frappé en relisant, ça revenait souvent en lisant du passage.
Voilà. Moi je crois qu'on peut devenir adulte de la scène. Et que rien n'échappe à l'écriture. Voilà. Et enfin, la scène peut devenir. Ça je crois vraiment. Et c'est une chose dont souffre beaucoup l'esprit, une grande maladie. L'organisation de santé publique. Il y a d'un côté du front des gens qui disent pas de santé publique, on n'en a rien. Ce qui compte pour nous, c'est pas ça. C'est finalement la satisfaction d'un instinct, d'une pulsion guerrière. Et l'autre, il y a des gens qui disent on fait la guerre, mais il faut bien la faire quand on. Et je souscris, je ne me souviens plus de mon nom, je souscris à ce que tu as dit, c'est-à-dire,
plein de gens, ça a bercé notre jeunesse, ces scènes de pacifistes qui vont faire la guerre contre, pour lutter contre la guerre. Hein, voilà. En tout cas, ces dilemmes. Ce sont des gens qui font la guerre pour la paix, disons. Pour restaurer la paix, par exemple, lutter contre le nazisme. Voilà. C'est tout ça. C'est pas ça, bien entendu, mais. Je veux dire par là qu'il y a deux façons de combattre, disons, pour reprendre son mot. Il y a une façon de combattre pour, au nom d'une lutte pour la paix, finalement. Pour la paix de l'esprit, pour la paix des braves, pour la paix de, je sais pas quoi. Mais qui est une lutte. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que je crois qu'aujourd'hui, pour répondre à la question que vous posiez, Arnaud, pour en tout cas l'acter cette question, nous devons battre pour affirmer un droit de la santé publique. Voilà. C'est très très bien d'avoir pris du LSD, d'avoir fumé de l'opium et tout ce qu'on veut, mais ça existe la santé. Là où c'est très très difficile, c'est que nous posons, en tout cas moi je pose, je l'ai dit fortement, c'est l'Europe des Vichy, la santé est une forme de la maladie. Évidemment là c'est très compliqué. Mais ça n'empêche pas, ben, dire ça, ça c'est ce qu'on dit tous les gens dont on parlait tout à l'heure au XXe siècle, mais dire ça ne doit pas nous exonérer de l'obligation, c'est ça que je voudrais dire, de nous exonérer de l'obligation de tenir un discours sur la santé publique. C'est pas parce qu'on dit, parce qu'on a le Nietzsche et qu'on est Nietzschéen. Moi je suis Nietzschéen, je me revendique, je dis parfois que le seul philosophe finalement dans lequel je me reconnais vraiment, c'est Nietzsche. Mais je veux dire sans réserve. Et évidemment, c'est lui qui a cette santé comme une forme extrême de la vie. Et c'est pas parce qu'on dit ça. Voilà. Et moi je le dis ça. Je pars de ça. On a le droit de parler de la santé publique. Et c'est là que je parle. Parce que ça, on a 16, elle n'est pas publique. Elle est privée. Et elle ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Aucun. Intérêt historique, intérêt anthropologique, intérêt tout ce qu'on veut, mais pas intérêt politique.
Je pense qu'on devrait lever la séance là, il est 10 heures passées. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Prochaine séance, animée par Marc Crépon, je crois. Ça sera le 19 décembre, mercredi 19 décembre.
À l'heure normale.
À l'heure normale, voilà, c'est à 18h30, oui.
Samedi 15 décembre à la commune, à quelle heure?
À le 15, à donc à partir de 14h. Voilà, avec Denis Guénon.
Vous avez dit samedi à 9h?
Samedi à 9h,
c'est. Vous y serez
avec Fekelkrot? Non.
Avec Fekelkrot?
Non.
Et Crépon y sera aussi?
À mon avis, Crépon n'y sera pas parce qu'il n'est pas invité.
Ah,
on
ne
peut pas descendre quelqu'un en flèche.
Ah bon,
oui, là, ça va
vous
être.
Aussi, vous descendez, ils vont parler de vous
ou pas? Je ne crois pas. Ils vont parler surtout du livre de Marc Crépon, là, que j'ai commenté ici dans le séminaire.
Ah, d'accord.
Et c'est ce livre qui s'appelle Altérité de l'Europe.
Je m'en souviens.
Voilà.
Et enfin, Hitler a parlé à la Jox. Vous allez faire quelque chose?
Ça dépend pas que de nous, mais on fortement envie. De nous lier à Alain Georges. Oui.
C'est très intéressant.
Ouais.
On le saura.
Bien sûr.
Ce sera l'année prochaine ou pas cette année?
Moi, je préférerais que ça soit cette année. Parce que là.
Je
raisonne en enseignant.
Vous dites que la vie à mon fils.
Entendu.
Ok, merci. Pourquoi vous avez dit râle au terme ?
Comment ?
Pourquoi vous avez dit râle au terme ?
Avec, parce que là, moi je marque chaque année cette fête-là, là, ça fait partie donc, de ma culture.
Pourquoi vous dites ?
Non, mais c'est important.
Parce que moi je suis juif, c'est pour ça que je suis allé que vous en parliez.
Oui,
c'est rare.
Ouais. Pas chez moi.
Ouais. Bon, c'est toi là que vous connaissiez ça. Attends, parce que c'est un mouvement particulier de la.
Peut-être parce que là, je.
Je sais ce que c'est.
Oui, bon, moi j'ai habité pendant très longtemps à Belleville. Et j'ai eu donc à Belleville.
Oui.
Et j'avais vraiment beaucoup de très bons amis là qui fêtaient Hanouka avec beaucoup d'enthousiasme et de génie, je dirais, de génie. Hein.
Chaque jour de la semaine.
Non,
j'ai pas une profession. Comme je le faisais, comme j'allumais une bougie tous les jours pour ma grand-mère. Ouais. À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Merci.
Oui, d'accord. Je pense que là, on te doit une fière chandelle.
Benoît Courrivet, c'est ça.
Hein, Bataillé.
Ah, Bataillé. Voilà, il y a eu un Courrivet aussi.
Oui.
Tu l'as connu, Courrivet.
Oui.
Ah, Bataillé, c'est ça.
Oui.
C'était très bien, votre affaire.
Oui. Là, cette distinction-là, guerre-combat, là, ça va.
Faire son chemin. Parce que, à bientôt.
Ouais.
À bientôt.
Merci, je t'en prie. Merci à toi. Hein. J'étais content quand même que tu sois là, parce que là, vraiment, quelle défection, là, au niveau là. Du cœur.
Nous,
on est là. Prends ça.
Ah oui, merci. Ah, nous, on est sérieux, bah, dis donc. Oui, nous, on est sérieux, chers amis. Je préfère ne pas les qualifier. Les inqualifiables.
C'est enregistré.